Merci à Monsieur Trongar. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Benjamin Mutsila, qui nous a rejoint et qui est délégué général de la Fédération des Congolais de la diaspora.
Je suis très content de vous trouver là tous et je vous en remercie. Alors, nous, ce sur quoi on voulait vous communiquer dans ce procès, je crois que tout a été dit par Maître Baudouin, puisqu'on a suivi tout ce qui s'était à Brazzaville depuis le début. Mais il y a une chose sur laquelle il faut absolument que nous revenions, et surtout qui est très important, c'est les faits. Tout à l'heure, Maître Baudouin disait, pour qu'on fasse un procès dans le droit, il faut s'appuyer sur les faits. Or, jusque-là, même dans le procès de Brazzaville, notamment quand on lit l'ordonnance de... qu'ils ont appelé ordonnance de, aux fins de non-droit et de transmission de pièces, ils ne parlaient pas réellement des faits, parce que les faits tels qu'ils sont déroulés, en fait, ça n'a jamais été une guerre en 98 qui s'est faite entre deux différents belligérants. Il faut peut-être revenir un tout petit peu en arrière, en 97, quand M. Sassou arrive au pouvoir. Quand il prend le pouvoir le 15 octobre 97, l'ancien régime, l'Issouba, tous les membres de l'ancien régime sont partis du Congo. Il n'existait plus à ce moment-là, sur le territoire national, des représentants de l'ancien régime. Autant les ministres que toute la haute administration, mais aussi les miliciens. Il n'existait plus d'hommes en armes au nom de l'Issouba sur le territoire. Seul M. Sassou avait sur le territoire des hommes en armes. Il faut savoir aussi qu'au mois de novembre 1997, il signe des accords militaires avec les pays voisins, notamment le Gabon, l'Angola et la RDC. Il signe également un pacte de non-agression avec les mêmes trois pays. Et ce pacte de non-agression lui permettait de verrouiller complètement le pays. Plus personne en armes ne pouvait rentrer sur le territoire national et exercer une quelconque guérilla, une quelconque milice. Donc tous ceux qui vont survenir par après ne sont que des hommes de M. Sassou. Et c'est à partir de 18 décembre 1998 qu'on va donc avoir cet exode des populations autant de Brazzaville, notamment Brazzaville Sud, qui vont partir dans la région du Poule. Et il faut savoir que quelques mois avant, les mêmes populations du Poule avaient été fait refluer vers Brazzaville, toujours avec les mêmes hommes en armes que M. Sassou avait implantés dans le Poule pour créer justement cette diversion, ou plutôt perpétrer ces massacres. Donc les populations qui vont repartir dans le Poule, en partant de Brazzaville, dans ces populations, il n'y a pas de ninjas. Les fameux ninjas dont on parlait de M. Kolela, il n'y en avait plus. Il n'y avait que des hommes en armes mis dans le Poule par M. Sassou. En particulier ce fameux monsieur qu'on appelle, qui s'est autoproclamé pasteur Ntoumi, et qui n'en est pas du tout. C'est tout simplement un homme que M. Sassou a mis dans le Poule pour perpétrer des massacres, faire déplacer les populations. C'est donc ce qui fera que les populations de Brazzaville Sud, qui sont dans le Poule, vont refluer vers la RDC, puisqu'il y a une frontière entre le Poule et la RDC, et les populations sont, je dirais, d'un point de vue ethnique, à peu près, pour ne pas dire les mêmes, entre les deux républiques. C'est ce qui explique que le colonel Twanga, ici présent, et sa famille, et d'autres familles congolaises, vont se retrouver au Zaïre, et je mettrai ma main au feu pour dire que M. Twanga est un ninja. Ce n'est pas du tout un ninja, vous l'avez vu en face de vous. Donc toutes les personnes qui vont se retrouver en RDC, dans les sites, ne sont pas du tout ninjas. Ce sont donc des réfugiés qui reviennent à Brazzaville à partir du mois de mai 1999. Et suite à une parole de M. Sassou, je vous la répète, il dit texto ceci. Les réfugiés peuvent rentrer à Brazzaville. Il ne leur arrivera rien. Je m'y engage. Je répète non seulement les paroles, mais la diction de M. Sassou. Voilà ce qu'il dit fin avril 1999. Donc ceux qui rentrent à Brazzaville à partir de ce moment-là sont des réfugiés. Il n'y a pas d'hommes en armes à ce moment-là. Contrairement à ce que a dit M. Nsourou pendant le procès, quand il dit qu'il recherchait des renseignements militaires auprès des ninjas ou je ne sais, auprès d'hommes en armes, absolument pas du tout. C'était des réfugiés qui rentraient à Brazzaville. Deuxième autre fait que je voulais également vous donner, quand ces réfugiés rentrent à Brazzaville, en passant par le Beach, théoriquement, il y avait un accord tripartite, RDC, Congo-Brazzaville, HCR, pour que ces personnes rentrent à Brazzaville. Leur sécurité donc était assurée par le droit international. Le colonel Twanga pourra nous le reconfirmer. Quand ils sont rentrés à Brazzaville, il n'y avait pas de HCR à Brazzaville. ils étaient reçus par les militaires, par les hommes en armes de M. Sassou. Autant les cobras de M. Sassou que la garde présidentielle, la fameuse garde présidentielle de M. Adoua, que les hommes de M. Nsour. Il n'y avait pas de HCR. C'est ce qui explique en partie, ou je ne dirais pas qu'il excuse, mais ce qui montre en partie que les réfugiés, quand ils sont rentrés à Brazzaville à ce moment-là, ils ont été, je dirais, ils sont rentrés dans un guet-apens tendu par M. Sassou. Parce que pour lui, ces populations qui rentraient, comme le colonel Touanga l'a dit en disant qu'ils ont été massacrés en ayant été ligotés, ces populations qui rentraient étaient pour M. Sassou des hommes qui devenaient dangereux pour son éventuelle élection à la magistrature suprême. Rappelez-vous qu'en 1997, il s'était autoproclamé président de la République. Donc voilà, si vous voulez, un peu le scénario qui se passait au moment où les réfugiés rentraient et les réfugiés ont été massacrés à Brazzaville par M. Sassou. Donc ça a été fait à dessein, c'était un plan concerté par ce monsieur qui est au pouvoir au Congo aujourd'hui et ses amis de la France-Afrique ici en France, dans d'autres pays, autant africains que d'autres pays européens. Puisque vous avez, je vous ai donné également ces accords militaires et ces pactes de non-agression signés par le Gabon avec le Congo pour justement protéger le pouvoir de M. Sassou et non les populations congolaises. Donc voilà les faits tels qu'ils sont déroulés. Pas de ninja, que des réfugiés qui rentrent. Et ce sont ces réfugiés-là que M. Sassou va massacrer au beach de Brazzaville. Bien. Pendant ce procès, ou avant de faire ce procès, il met en place une fameuse cour criminelle. Sa propre constitution dit ceci. Sa propre constitution. Ce ne sont pas les textes qui viennent d'ailleurs. Pour qu'un magistrat soit nommé, il faut qu'il soit proposé par un conseil supérieur de la magistrature. Mais lui, comme il n'a jamais de tout temps respecté un quelconque texte de loi, c'est lui qui nomme ses magistrats. Donc il nomme qui? Ses amis. Et le monsieur APC qui va nommer, c'est celui qui lui a fait gagner les élections. C'est celui qui a éliminé tous ceux qui étaient gênants dans son système et il a fait gagner ses propres amis, ses parents ou ses cousins ou ses propres neveux. Et c'est lui qui est nommé président de la cour criminelle. Et d'où la décision de Maître Malonga de sortir, de se déconstituer de ce procès en s'appuyant sur ce vice de forme. Donc contrairement à ce qu'on a lu dans certains journaux ici à Paris, moi je pense que c'est aussi à vous de redonner cette véritable information, ça n'a pas été une lubie de Maître Malonga de dire nous allons nous déconstituer parce qu'il y a vice de forme, mais c'est parce que tout simplement la constitution, sa constitution, celle de M. Sassou, il ne l'a pas respectée du tout. Donc en rentrant dans ce procès, il n'y a eu que des vices de forme. J'ai ici une page que j'ai sortie du site congolais, du gouvernement congolais qui s'appelle CongoSite, donc site officiel de la République du Congo. Et vous avez ici une photo où on voit derrière les magistrats des hommes en armes. Tout à l'heure, Maître Baudin vous disait que dans la salle, il n'y avait que des hommes en armes, notamment les gardes du corps des différents généraux, mais aussi d'autres hommes en armes qui arrivaient pour intimider les parties civiles. Et là, vous les avez là, derrière les magistrats, pour influencer notamment les quelques rares parties civiles qui ont pu prendre la parole pendant ce procès. Donc voilà, si vous voulez, un autre des éléments qui vous montre bien que ce procès a été un procès qui a été totalement inique. Et Maître Baudin, tout à l'heure, a insisté là-dessus, notamment sur les transports. Il n'y a jamais eu de transport ou du tribunal ou du juge d'instruction vers les lieux où il y a eu des supplices. Donc voilà pourquoi, dès le début, autant avec la FIDH, avec l'OCDH, avec le collectif des parents des disparus de Brazzaville comme M. Touanga, nous avons toujours dit que ce procès de Brazzaville ne pourra pas déboucher sur un véritable procès, puisque nous, à la FCD, on avait déjà dit que le pouvoir de Brazzaville n'a jamais organisé un procès respectant le moindre texte de droit. À aucun moment, ce pouvoir n'a organisé un procès qui respecte les éléments les plus essentiels du droit. Donc voilà pourquoi nous n'y croyons pas. Et en parlant de ce verdict, je crois qu'on ne peut même pas épiloguer là-dessus, le colonel Touanga l'a dit, tous les généraux sont pratiquement les parents de M. Sassou. Oui. Et là, je crois qu'il faut revenir sur une réalité africaine. Un oncle ne peut pas livrer un de ses neveux. Adoua, c'est le neveu de M. Sassou. Dabira, c'est le neveu de M. Sassou. Ndenge est un parent du neveu de M. Sassou qui s'occupe de la sécurité intérieure du Congo. Il ne peut pas les livrer, impossible. Même si dans le réquisitoire du procureur de la République, il a été demandé pour ses différents généraux des années de peine avec travaux forcés, il n'en sortira rien. Ce sont les deux lampistes qu'on y a, le fameux Vital, qui n'est qu'un indicateur, Et pour votre information, le même Vital a fait une confession publique devant plus de 100 000 personnes où il a avoué avoir, en 1998, dans la période où il y avait plus de miliciens au Congo que les hommes en armes de M. Sassou, où M. Vital a avoué avoir été parmi ceux qui ont assassiné les évêques et des prêtres qui se trouvaient à Mindouli sur mission demandée par M. Sassou pour essayer d'amener la paix dans la région de Poule. M. Vital l'a avoué. A-t-il été condamné ou a-t-il été inquiété pour ça? Absolument pas. Et dans cet aveu qu'il a fait public, M. Vital disait ceci: j'ai eu la logistique d'un des conseillers de M. Pierre Aubin, ministre de l'Intérieur, qui s'appelait un certain colonel Ngasaki. Ces gens ont-ils été inquiétés? Absolument pas. Et c'est pour ça que vous comprenez, dans ce procès, alors qu'il y a eu un accord tripartite pour ramener des réfugiés à Brazzaville, on n'a pas auditionné comme témoin ni le HCR, ni le ministère de l'Intérieur de la RDC. On ne les a pas appelés. Parce que pour M. Sassou, il fallait faire une mascarade, montrer à l'opinion internationale: nous avons fait un procès, nous allons peut-être condamner à des peines plus ou moins légères nos différents généraux, et surtout, ayant à l'esprit, nous sommes aujourd'hui le 12, dans 3 jours, fête nationale du Congo, le 15 août, ces messieurs ne seront tout simplement qu'amnistiés. Ils n'auront jamais fait de prison. Et je crois que vous connaissez mieux le droit pénal que moi, qui ne suis qu'un président d'association. Pour le groupe criminel, quand quelqu'un est inculpé, il arrive au tribunal entravé, menotté, il sort de la prison. À Brazzaville, le palais de justice se trouve à peu près à 500 mètres de la prison. Tout à l'heure, mes précédents interlocuteurs l'ont dit, ces messieurs arrivaient au tribunal dans de grosses limousines avec 10 ou 20 gardes du corps armés jusqu'aux dents. Et le président du tribunal s'est permis d'interpeller M. Ndengue en l'appelant: Werrason, comment allez-vous? Pour ceux qui ne savent pas, Werrason, c'est un musicien de la RDC très célèbre. Et voilà comment il a appelé. Le président du tribunal qui interpelle un inculpé: Werrason, comment allez-vous? Donc, pour vous montrer, si vous voulez, un peu l'ambiance de ce procès, et pour vous dire qu'il n'en sortira strictement rien. Nous n'y croyons pas, autant avec la FDIH qu'avec l'OCDH à Brazzaville, avec les parents disparus, M. Touanga ici présent, et les parents qui sont à Brazza, avec qui nous sommes en communication régulièrement tous les jours. Nous n'avons jamais cru à ce procès. Eux, à un moment donné, se sont dit: ce procès servira peut-être de procès de mémoire, que les parents puissent parler. Le collègue Touanga l'a dit tout à l'heure, on a auditionné 4 familles, les 70 autres qu'ils ont reconnus, le président a décrété: nous ne vous auditionnons plus. On n'a plus besoin de vous entendre. Vous repartez chez vous. Donc voilà comment s'est déroulé le procès de Brazzaville. Je vous remercie.